le Corse et l'Auvergnat.
Romain Marcilli.
Jérémy Gallon.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Romain.
Après 3 épisodes spéciaux consacrés respectivement au Mexique, aux États-Unis et à l'état de la justice en France, reprenons le cours de notre discussion sur l'actualité du moment, car oui, il y a bien tout de même une actualité en dehors de la Coupe du Monde.
Comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique et de bien d'autres choses. Nous reviendrons notamment sur le congrès annuel des maires de France qui s'est tenu la semaine dernière et représente toujours un moment politique important.
Nous parlerons, en marge de la visite d'État d'Emmanuel Macron aux États-Unis cette semaine, des tensions économiques et commerciales entre les Américains et l'Europe.
Nous en profiterons pour revenir brièvement sur la stratégie de sécurité nationale de l'administration Biden qui a été présentée il y a quelques semaines et qui nous rappelle que diplomatie commerciale et géopolitique sont liées.
Et pour terminer, nos coups de cœur de la semaine.
Mon cher Romain, la semaine dernière s'est déroulé le 104e congrès de l'Association des maires de France. C'est un événement politique qui est très suivi. Il y a un peu plus de 10 000 élus de toute la France et d'outre-mer qui se retrouvent à Paris durant plusieurs jours pour échanger sur toutes les problématiques relatives à la démocratie communale. C'est aussi un échange un peu de meilleures pratiques. Ils discutent aussi de leur rapport à l'État et aux autres collectivités. Tu étais sur place, est-ce que tu peux d'abord nous décrire un petit peu comment ça se structure ce congrès? Quels en sont les temps forts?
Alors oui, Jérémy, j'étais sur place. 2-3 petits mots de contexte. L'AMF, donc l'Association des maires de France, c'est sûrement la plus vieille association d'élus en Europe, en Occident, puisqu'il y a à peu près 35 000 adhérents, étant donné qu'en France, nous avons une grande quantité de communes. C'est aussi une très vieille institution, parce qu'elle a été créée en 1907, donc sous la Troisième République. Elle avait été reconnue d'utilité publique. Elle a pour but, donc, à la fois de défendre les libertés locales et de constituer un appui aux élus dans leur gestion au quotidien de leur ville ou de leur village. Parce que voilà, avec tant de communes en France et donc de petites communes, dans le lot, il n'y en a pas beaucoup qui ont des services qui permettent d'opérer un travail juridique et financier, et l'AMF sert à cela. Alors, comment ça se passe? Tu as toujours un lot, comme pour chaque association, tu as toujours un congrès, donc une assemblée générale, des discussions, des réunions, beaucoup d'ateliers avec donc des discussions entre élus sur des sujets très concrets. Cette année, lors du premier jour, tu avais beaucoup d'élus d'outre-mer, notamment de Mayotte, qui racontaient le problème pour gérer la sécurité, ou plutôt lutter contre l'insécurité. Mais tu as aussi des ateliers plus techniques sur tel mode de financement, telle bonne pratique. Donc effectivement, ça c'est le congrès. Et puis tu as parallèlement, tu as aussi le salon. Et là, tu as, comme dans tout salon, beaucoup d'intervenants, d'entreprises, souvent, qui proposent leurs services. Tu as à la fois de la technologie, des logiciels, mais tu as aussi des services, de l'industrie, des voitures, pour finalement s'adresser à peu près 35 000 clients.
Effectivement, parce que ce que l'on oublie parfois, c'est que les mairies, comme les collectivités locales en général, sont des investisseurs très importants en France. Ce sont d'ailleurs, par rapport à l'État, leurs dépenses d'investissement en proportion sont beaucoup plus importantes que leurs dépenses de fonctionnement. Et donc, c'est effectivement des acteurs du développement économique local. Évidemment, dans des secteurs, ça paraît évident, on pense tout de suite au BTP, aux routes, etc., mais dans toute une gamme de secteurs. Alors, ce qui était intéressant sur cette édition, les médias ont beaucoup parlé de l'intervention du président Zelensky, du président ukrainien, évidemment, on est dans ce contexte. Mais ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'il y avait aussi des maires ukrainiens qui se sont exprimés. Et moi, ça m'intéressait de savoir ce que tu en pensais, parce que ça, c'est un angle qu'on voit moins généralement dans les médias ou dans les débats géopolitiques. Or, il y a probablement eu un échange finalement sur des sujets beaucoup plus concrets entre maires.
Oui, alors c'était un très bon moment et je vais y revenir. C'était vraiment un moment assez émouvant, l'unité. Mais l'unité, en fait, c'est un peu dans l'ADN de l'AMF. C'est une institution qui est transpartisane. Ça, c'est assez important. C'est pas comme une assemblée locale ou nationale qui est tantôt penche à gauche, tantôt à droite, tantôt au centre. Là, pas du tout, puisque la composition de l'assemblée, enfin du bureau de l'AMF, est depuis toujours multipartie et est censée représenter les grands équilibres entre maires de gauche, du centre, de droite, et surtout les très nombreux maires qui sont sans étiquette. En France, j'imagine que c'est le cas aussi en Auvergne, la plupart des maires sont sans étiquette. Donc, en général, au moment du renouvellement du bureau, de l'élection du président et des instances de l'AMF, il n'y a qu'une seule liste d'union. Donc vraiment, l'union, c'est ce qui caractérise. Et l'an dernier, cela avait un peu bardé, justement, parce que pour la première fois, tu avais eu l'exécutif qui voyait pas très bien, on va dire, l'affirmation d'une AMF un peu rebelle et exigeante sur le respect des libertés locales, et qui donc, face à la liste transpartisane menée par David Lisnard, avait présenté une liste très proche du gouvernement et d'Edouard Philippe, qui avait donc été montée. Et la liste de David Lisnard l'avait finalement emporté très largement, malgré la forte implication de l'exécutif dans cette élection, mais ça donnait un peu de tension globale. Cette année, l'ambiance était donc totalement différente, et c'était un beau symbole justement que le premier moment fort de ce congrès de l'AMF soit la réception de 6 maires ukrainiens, notamment celui de Lviv, qui ont pu témoigner en direct, en chair en os, porte de Versailles, de leur quotidien depuis plus de 6 mois. Et là, il y a bien sûr, on entend et on lit beaucoup de choses très intéressantes sur la situation géopolitique en Ukraine, mais là, tu avais face à toi des personnes qui évoquaient les problèmes d'électricité, les pannes de chaudières, les écoles, enfin, tout ce qui fait la vie normale d'une commune, tout ce qu'on peut imaginer si aujourd'hui on avait une telle situation. Et puis bien sûr, très important aussi quand même, ils étaient là pour remercier à travers l'AMF et les maires de France, le pays tout entier pour la forte aide humanitaire, qui très souvent a été organisée par les mairies. Donc tu vois, il y a ce lien possible entre géopolitique et collectivité locale.
Tout à fait, finalement. Il est important de le rappeler, important de rappeler qu'une grande partie de l'aide a été fournie par les collectivités locales. Alors tu le disais, un contexte moins tendu sur le plan politique que l'année dernière, un côté transpartisan, mais aussi probablement un rapprochement entre maires qui, quelle que soit leur sensibilité politique, sont exposés à confrontés à des problèmes similaires, à des défis similaires sur le terrain, font face à des sujets extrêmement concrets. Et le thème du congrès était pouvoir agir. Alors évidemment, quand on parle de défis, on parle notamment du rapport des mairies, enfin des communes à l'État, et notamment à leurs autorités qui se voient parfois comme une autorité de tutelle, là où les maires se veulent parfois plus indépendants. Et aussi bien sur plusieurs sujets, et moi j'aimerais que tu reviennes là-dessus, qu'est-ce qu'on met derrière le terme pouvoir agir pour un maire? Est-ce que c'est des questions uniquement de dotation, des questions financières? Est-ce que c'est des questions par rapport à la réglementation? Comment, quel était le message derrière ce thème en fait?
Pouvoir agir, pourquoi ce thème? C'est parce que beaucoup de maires, en tout cas c'est comme ça qu'ils expriment, se sentent aujourd'hui largement ou en partie empêchés dans le bon exercice de leur mandat. Tu as mentionné l'aspect finance publique, quand même fondamental, parce qu'il y a un mouvement de long terme, qui date d'au moins 10 ans, un peu de recentralisation en France. Alors l'État a supprimé des taxes qui relevaient des collectivités, avant tout comme la taxe d'habitation, et promet ensuite de les redistribuer. Mais le compte n'y est pas. Et c'était donc un levier d'action en moins pour les communes, et en l'occurrence pour leurs maires. Et en France, il y a la dotation générale de fonctionnement. Alors, c'est pas très connu, mais c'est, en gros, toute la somme d'argent que l'État central, reverse chaque année aux collectivités locales pour assurer leur mission. Et cette somme varie selon l'inflation. Mais en tout cas, cela doit compenser, au centime près, tous les impôts, toutes les recettes que l'État prélève pour les collectivités. Cette année, il y avait un problème lié à l'inflation, au contexte, puisque certes, cette dotation augmente d'un peu de moins de 2%, mais l'inflation est à 7%. Donc les collectivités et les communes en particulier se sentent un peu flouées, alors que de plus en plus de responsabilités pèsent pour autant sur elles. Et puis, aussi, il faut rajouter que dans le projet de loi de finances cette année, il a été instauré un mécanisme d'encadrement des dépenses des collectivités. Alors, ce qui n'a pas tellement de sens dans la mesure où les communes en France sont déjà soumises à la règle d'or, c'est quelque chose qu'on sait peu, parce que, bien sûr, il y a des communes de plus ou moins bien gérées, il y a des communes qui, parfois, voilà, ont une gestion qui est très critiquable, mais en France, il y a cette règle d'or pour les communes, et puis, alors ça, c'est lié également à l'histoire du pays, il faut avoir en tête que les collectivités représentent en gros, enfin, un peu moins de 20% de la dépense publique en France, contre, en Europe, généralement 30 à 40%. Alors, cela s'explique aussi parce qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus décentralisés, voire des fonctionnements fédéraux. Tout cela donne le sentiment, et plus que le sentiment, pour les maires, que le principe de libre administration de leur commune est entravé.
Alors, sur le sujet des finances locales, tu viens de rappeler les grands points, mais je pense qu'il est important de s'y arrêter parce qu'il est effectivement essentiel. Tu l'as rappelé, il y a une règle d'or qui est que les communes doivent chaque année présenter un budget à l'équilibre. Et ça, c'est vrai que nos concitoyens l'oublient. Alors, tu le disais, il y a des communes qui sont mal gérées, mais justement, quand elles sont mal gérées, vu qu'elles doivent présenter un budget à l'équilibre, bah, ça veut dire qu'elles sont obligées d'augmenter leurs impôts. On a vu ça, par exemple, notamment à Paris avec la taxe foncière. Et ça veut dire qu'ensuite, tu as un mécanisme démocratique qui fait que si les citoyens veulent sanctionner les maires qui ont mal géré leur commune, ils peuvent le faire aux élections suivantes. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en France, quand on parle d'endettement, et on parle quand même cette année sur le budget, c'est 155 milliards d'euros de déficit qui sont prévus pour la France, et on risque même d'être au-dessus, ce sont les comptes de l'État et les comptes sociaux qui posent problème. Ce ne sont pas les comptes des collectivités territoriales. Donc ça, c'est, je pense, très important de le rappeler. Rappeler aussi qu'il y a quand même, on parle de dotations, mais il faut bien que nos auditeurs comprennent que les dotations ne sont pas des subventions. Les dotations, ce sont des mécanismes de flux financiers de l'État vers les collectivités, et notamment vers les communes, mais qui sont là pour compenser, notamment le fait que parfois l'État a retiré des sources de financement, et notamment certains impôts, taxes d'habitation ou autres, ou CVAE dans le passé, aux communes. Donc il ne faut pas du tout voir ça comme des mécanismes de subvention, mais c'est en fait des flux financiers obligatoires et qui doivent être en lien avec le fait qu'il y a un principe constitutionnel de libre administration des collectivités.
Oui, c'est un peu le problème de la paille et de la poutre. Donc voilà, l'État, finalement, devrait plutôt se concentrer sur ce qui relève de ses prérogatives. Et puis, alors, bien sûr, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il y a deux autres effets qui, à mon avis, sont importants. Alors déjà, il y a quand même, à mon avis, une entorse au principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Cette année, c'était un des thèmes de l'AMF, on se souvient des 40 ans des lois de fer qui instaure en fait une véritable décentralisation en France. Bon, ben, cette décentralisation, aujourd'hui, d'une certaine manière, est menacée. Et puis, il y a un autre point économiquement, c'est que, tu l'as rappelé, une bonne partie de l'investissement public repose sur les maires. Donc, tu peux avoir des effets macroéconomiques. Et puis, dernier point, et pas des moindres, je crois que ça pose un véritable problème démocratique. Tu rappelais que les maires, effectivement, sont responsables de leur bonne ou de leur mauvaise gestion, et je crois que cela doit rester ainsi. Et dans les cas les plus extrêmes, parfois, l'État met sous tutelle certaines communes. Alors là, c'est vraiment lorsque les comptes sont totalement hors de contrôle. Mais c'est un passage qui m'a toujours plu et qui est très connu de Tocqueville dans La démocratie en Amérique. Mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la science. Elles les mettent à la portée du peuple. Elles lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir. Sans institution communale, une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n'a pas l'esprit de la liberté. Et ça, je crois que c'est à rappeler parce que la démocratie, ce n'est pas qu'une élection présidentielle une fois tous les 5 ans avec un grand show et une grande concurrence de personnalités. La démocratie, et la démocratie locale en particulier, c'est un processus permanent de débat, de contrôle, d'exécution. Et si on vide les communes de leur substance, si on les mixe dans des intercommunalités de force qui n'ont pas toujours beaucoup de sens, si on empêche les maires et les conseillers municipaux d'agir, je crois qu'on affaiblit le système démocratique tout entier. Et c'était aussi un message qui a été rappelé par David Disnard durant son discours en clôture du Congrès des maires. Mais je crois qu'on parle beaucoup de crise civique, de crise démocratique. C'est vraiment un point fondamental.
Tout à fait. Et puis je crois que derrière ce que tu viens de décrire, tu disais au début de ton intervention, on observe un processus de recentralisation depuis une quinzaine d'années dans un pays qui pourtant était déjà, il y a même 15 ans, très centralisé par rapport notamment à nos voisins européens. Et c'est quand même un sujet majeur en France parce que je crois qu'on a un État qui en fait est dans une contradiction permanente, c'est-à-dire un État qui essaie de couvrir un nombre toujours plus important de missions, alors que sur ses missions fondamentales, notamment régaliennes, le judiciaire, l'école, la santé, il est finalement toujours plus faible. On parlait de l'état de la justice la semaine dernière, on a un système judiciaire en France qui, à bien des égards, périclite. On a sur la question de la sécurité, sur la question de l'immigration, du contrôle des frontières, un État qui est très faible, très fragile. Et puis on peut multiplier cet exemple à beaucoup de pans. Donc sur ces missions centrales, l'État est extrêmement faible. Et pourtant, L'État essaie d'être de plus en plus présent, à la fois dans la sphère économique, mais aussi de prendre des prérogatives à nos communes. Et ça, je pense que c'est un sujet et un problème majeur. Alors, ça vient aussi probablement de la formation d'une partie de nos élites politiques. Beaucoup sont des hauts fonctionnaires, des gens qui, finalement, connaissent assez mal les territoires. On passe le lien avec les territoires, ça, c'est un vrai sujet. Mais je crois qu'il y a aussi cette question de reconnaître enfin, et je sais que ce n'est pas la tradition française, et beaucoup de gens disent la France ne changera pas, mais c'est un point qu'on avait abordé aussi dans notre entretien avec Patrice Ganiffé. On arrive quand même aujourd'hui à un moment où on voit les limites, plus que limites d'ailleurs, de cet État qui est faible avec les forts, fort avec les faibles, impuissant sur ses missions centrales, et à l'inverse, des maires, des élus locaux, qui sont souvent ceux qui connaissent le mieux leurs problématiques au niveau local, mais à qui on ne donne pas ni les moyens financiers, ni les moyens réglementaires d'agir. Parce que tu parlais des moyens financiers, mais il y a aussi un problème aujourd'hui de suradministration, de surréglementation, qui fait que dès qu'un élu local veut agir, il n'a pas les moyens de le faire. Et on échangeait récemment toi et moi, notamment sur... on dit parfois, ah, mais il y a des fonds européens aujourd'hui qui sont à disposition des mairies. Moi, je vois, par exemple, là où j'ai grandi, dans l'Allier, les mairies, parfois, c'est le maire qui a un travail à côté, juste un ou deux employés communaux. Ils n'ont absolument pas la maîtrise technique en interne pour faire les dossiers de demande de subvention. Et donc, en fait, tu t'aperçois que plein de petites communes en France n'arrivent pas à avoir des subventions dont elles auraient pourtant besoin, tout simplement parce qu'elles n'ont pas la logistique derrière et parce qu'on rend leur action beaucoup plus compliquée.
Du moment que tu rentres, en plus de tout ce qu'on a évoqué d'un point de vue institutionnel, mais du moment que tu rentres dans un processus de bureaucratisation permanente des processus de décision, cela crée une fracture mais gigantesque entre les communes les grandes communes qui peuvent embaucher, qui peuvent avoir des directeurs juridiques pour monter des dossiers, etc., et celles qui ne le peuvent pas. Mais ça rejoint la question des finances publiques, en fait. C'est l'autre versant du même problème. Quand le mode de fonctionnement ne repose plus sur le principe de libre administration, mais sur celui de la redistribution selon des réponses et des appels à projets. Alors, au-delà du fait que c'est étatiste et paternaliste, c'est la prime aux communes qui ont des grosses équipes, tout simplement, qui sont capables de consacrer du temps à tous ces procédés juridiques et bureaucratiques. Et cela démoralise aussi beaucoup de maires. On l'a vu lors des dernières municipales, parfois il y a des communes en France, ça n'était jamais arrivé, qui ont du mal à trouver des maires. Enfin, quand je dis des maires, quand tu as du mal à trouver assez de candidats pour les élections au conseil municipal.
C'est vrai que tout ce qu'on vient de décrire s'ajoute à une tendance de fond dans notre société, qui est le fait qu'il y a de moins en moins de respect à l'égard de l'autorité. Alors, je sais que dire ça, certains vont se dire c'est réactionnaire, etc. Mais le fait est que c'est vrai aujourd'hui. Des figures qui étaient des figures tutélaires. Moi, je vois par exemple dans le village où j'ai grandi, dans les villages à la campagne, tu avais historiquement trois grandes figures tutélaire. C'était le maire, l'instituteur du village, et puis le médecin, ou voilà. Et aujourd'hui, ces figures, alors le corps enseignant, on pourrait en parler aussi. Aujourd'hui, il y a quand même eu une perte de prestige, une perte de statut des enseignants, des instituteurs dans les villages, mais plus généralement dans notre société. Et le maire aussi. On a parlé, il y a eu souvent la presse s'est fait l'écho d'agressions, parfois très violentes à l'égard de certains maires. Mais ces agressions violentes, en fait, cachent le fait qu'il y a surtout au quotidien, beaucoup d'agressions verbales, d'agressivité à l'égard des maires, de moins en moins de respect. Et c'est vrai que pourtant, être un maire aujourd'hui, c'est à la fois une très belle mission, mais c'est en même temps une mission où les gens sont obligés de quasiment donner leur vie à cette mission. Parce que même dans un petit village, du fait de l'absence de moyens, il faut être 24 heures sur 24 présent. Et c'est vrai qu'on est dans ce paradoxe, on n'a plus que jamais besoin des maires pour faire vivre notre démocratie. C'est un peu parfois le dernier maillage démocratique dans une société qui, par ailleurs, où le lien social se délite. Et pourtant, une certaine partie de nos concitoyens les traite de moins en moins bien. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai sujet.
C'est pour toutes ces raisons que c'était intéressant de suivre ce congrès des maires de France. Et je suis content qu'on ait pu en parler. L'an dernier, Emmanuel Macron était présent au congrès. Cette année, il a préféré se faire présenter par sa première ministre, Elisabeth Borne. En revanche, le président de la République, on en parle beaucoup cette semaine, car il est en visite ces jours-ci, une visite très importante, une visite d'État aux États-Unis, dans un contexte, alors certes géopolitique très lourd, avec la guerre russe en Ukraine, et on peut dire globalement une bonne entente, une bonne coopération entre la France et les États-Unis, mais c'est aussi, au-delà du contexte ukrainien, un contexte de forte tension commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Donc cette visite s'inscrit dans ce cadre. Quels sont pour toi les grands enjeux de ce moment important ?
Alors, je pense que tu les as rappelés. C'est vrai qu'il y a à la fois, en fait, ce paradoxe d'une alliance transatlantique qui, d'un côté, semble plus forte que jamais, notamment de par l'unité affichée depuis le début de la guerre en Ukraine, unité en termes de coopération, en termes de services de renseignement, soutien apporté sur le plan militaire, économique à l'Ukraine par les Américains, coordination sur la question des sanctions. Et donc, une Amérique qui se concentre énormément sur ce qui se passe en Europe. Et après les années Trump, c'est un vrai contraste. Et par ailleurs, ça suit en fait les débuts d'une administration Biden où malgré, on va dire, quelques tensions sur le retrait en Afghanistan, sur AUKUS, notamment côté français, on a eu aussi toute une série de dossiers commerciaux où il y a eu une baisse des tensions. On peut parler, par exemple, du conflit entre Airbus et Boeing, où il y a eu une baisse des tensions. On peut parler aussi des tarifs qui avaient été imposés par l'administration Trump sur l'acier ou l'aluminium européen. Pareil, on a trouvé une solution. Mais le paradoxe, c'est qu'en fait, on est en pleine résurgence des tensions commerciales. Et en fait, la visite probablement du président Macron, qui sera accompagné par le ministre des Finances Bruno Le Maire à cette occasion, va probablement se focaliser beaucoup là-dessus, parce que ces tensions commerciales sont vues comme quasi existentielles.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'elles ont été, on va dire, accentuées, ces tensions ? Je crois que le contexte, et notamment le contexte de l'inflation très fort en Europe, un peu moins fort en France, mais on y arrive également, peut expliquer une part de cette inflammation, avec des réponses politiques aux États-Unis qui en Europe, parfois, et surtout en France, nous surprennent, car on se rend compte que, en fait, les États défendent leurs propres intérêts et non pas forcément un bien commun universel. D'autant plus qu'une grande partie des observateurs, on va dire peut-être un peu naïvement, on en a parlé lors de notre épisode spécial États-Unis, croyaient qu'avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden, tout allait absolument changer dans les relations entre l'Europe et les États-Unis et tout allait s'apaiser. Non, on voit bien qu'il y a des constantes qui vont au-delà des différents présidents. Tu suis particulièrement l'actualité américaine. Qu'est-ce qui a fait que dans les choix, notamment de l'administration Biden, cette résurgence des tensions s'accentue ces dernières semaines?
Alors, tu me connais, Romain, quand tu rappelles que les États défendent d'abord leurs intérêts en politique étrangère, c'est pas moi qui vais te contredire, étant plutôt de tradition réaliste en politique étrangère. Et je pense que c'est effectivement, mais derrière la petite plaisanterie, il y a quand même cette idée, je pense, que nous, Européens, et tu as raison de le rappeler, on fait souvent l'erreur de penser que le président américain serait, s'il est démocrate, surtout, s'il semble plutôt être pro-européen, serait quasiment le président de l'Europe. C'est l'erreur qu'on avait faite avec Obama. Et on avait oublié qu'Obama était d'abord le président des États-Unis et était d'abord là pour défendre les intérêts américains. C'est également le cas de Biden, même si c'est quelqu'un qui est attaché à la relation transatlantique. Mais là, on arrive dans un contexte qui est extrêmement compliqué. Pourquoi ? Parce que les Européens font face, depuis le début de la guerre en Ukraine notamment, à une augmentation, à une explosion du prix de l'énergie. Et cette explosion du prix de l'énergie a un impact évidemment pour les ménages, mais a surtout un impact extrêmement fort pour notre tissu industriel. Et donc aujourd'hui, il est beaucoup plus cher pour les grandes entreprises, et notamment dans des secteurs qui sont énergivores, je pense à la chimie, je pense à l'automobile, de produire aujourd'hui en Europe que de produire en Asie ou de produire aux États-Unis. Et dans ce contexte-là, d'abord, le premier reproche qui est fait par les Européens aux Américains, c'est de dire aux Américains, bon, bah, écoutez, vous nous avez aidé à diversifier nos sources d'énergie, vous nous permettez d'importer du gaz liquéfié de chez vous, du gaz naturel liquéfié de chez vous, mais vous nous l'importez à un prix très élevé. Bon, beaucoup plus élevé que chez vous. Alors, il y a des raisons matérielles qui expliquent pourquoi on importe à un prix plus élevé que les États-Unis. D'abord, il y a des coûts de transport, et puis ensuite, il y a des intermédiaires, etc. Mais le fait est que ça, c'est un premier reproche qui est fait par les Américains. Par les Européens, pardon, aux Américains. Mais surtout, le gros second reproche, c'est le suivant. C'est que l'administration Biden a récemment passé une législation qui s'appelle l'Inflation Reduction Act. Sur le papier, ce paquet législatif est plutôt très bien parce que l'administration Biden est la première administration américaine à investir considérablement dans la transition vers des énergies renouvelables et notamment dans la lutte contre le changement climatique. Mais pour obtenir sa majorité au Sénat, et on se souvient qu'au Sénat, ça se tient à un vote près, il a dû avoir le soutien notamment d'un sénateur démocrate en Virginie-Occidentale qui a dit « Ok, je soutiens ce paquet législatif, mais à une condition, c'est que les investissements en énergie renouvelable ne se feront pas au détriment de l'industrie américaine. » C'est-à-dire que si on doit investir des centaines de milliards, et c'est 370 milliards qui ont été investis par l'administration américaine et par les États-Unis, il faudra que ces énergies renouvelables, ces voitures électriques notamment, ces batteries, ces éoliennes, soient produites aux États-Unis et non pas ailleurs dans le monde. Et donc, ça a été le paquet législatif. Mais là, les Européens disent, attention, parce qu'en fait, en adoptant cette législation, vous violez les règles du commerce international, et notamment sur un exemple très concret, c'est que les Américains donneront demain des subventions pour toutes les voitures électriques, mais à une condition, c'est que ces voitures électriques soient assemblées, mais aussi produites aux États-Unis. Et quelle est la conséquence que tous les dirigeants européens craignent ? C'est que l'industrie automobile européenne, qui a déjà en partie relocalisé sa production en Chine, décide de relocaliser l'autre partie restante en Europe aux États-Unis. Et cet exemple se reproduit dans plein de secteurs de l'économie.
Alors tout cela, je vais peut-être employer un mot un peu fort, mais donne l'impression que parfois qu'en Europe, nous sommes un peu les imbéciles heureux de la mondialisation. Tu vois, ce que tu as présenté dans ces mesures de l'administration Biden semble relever globalement du bon sens. Or, tout de suite, on parle en Europe d'un retour du protectionnisme dangereux, extrêmement fort, et puis de là, parler du retour du nationalisme, il n'y a qu'un pas. Il y a eu aussi un geste fort, alors qui ne rentre pas du tout dans le même contexte, mais qui est aussi, qu'on pourrait accuser de protectionnisme, de la part du pouvoir américain, qui est celui de contrer, d'interdire sur le territoire des opérateurs téléphoniques, enfin de télécommunications chinois, comme Huawei. C'était également il y a quelques jours. Donc, moi, je ne sais pas si on peut parler vraiment de retour de protectionnisme ou si, finalement, ce n'est pas tout simplement la défense d'intérêts des États, y compris des intérêts vitaux et géopolitiques.
Alors, c'est vrai que tu peux dire d'un côté, finalement, les Européens n'ont qu'à faire de même, puisque nous aussi, nous avons des mécanismes de soutien, par exemple, à l'achat de voitures électriques, mais ces dispositifs d'aide vont également aux voitures qui sont produites dans d'autres régions du monde, en Corée du Sud, au Japon ou aux États-Unis. Bon, il y a d'abord une question juridique ici, c'est est-ce que les mécanismes de subvention qui ont été adoptés par l'administration américaine violent ou non les règles de l'OMC ? Les Européens disent, vous violez les règles de l'OMC. Mais là, on rentre dans notre problème, qui est en fait le problème du multilatéralisme aujourd'hui, c'est que si les Européens engagent une action à l'OMC contre les États-Unis, bon, d'abord en termes de symbole au cœur de la guerre en Ukraine, c'est pas top, et puis surtout, le processus est assez lent, ça va durer au moins un an, et en un an, tu peux avoir une vraie désindustrialisation qui prend place. Parce qu'entre-temps, tu auras beaucoup d'entreprises européennes qui décideront de stopper leurs projets d'investissement en Europe et de relocaliser leur production dans d'autres pays. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, l'administration Biden a tendance à dire « Écoutez, si vous n'êtes pas content, faites de même. » Oui, mais le problème, c'est que pour faire de même, il faut avoir des marges de manœuvre budgétaires. Et là, on arrive sur un second problème au niveau européen, c'est que, comme tu le sais, il y a un grand nombre de pays européens, en premier lieu la France, dont les marges de manœuvre budgétaires sont aujourd'hui extrêmement limitées, parce qu'on a déjà un déficit extrêmement élevé et une dette publique extrêmement élevée. Et donc, on n'est pas capable de soutenir notre industrie au même niveau que d'autres pays. Alors, le problème devient même plus complexe quand tu t'aperçois qu'entre pays européens, il y a des différences. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays comme l'Italie ou la France qui n'ont plus de marge de manœuvre budgétaire, et tu en as d'autres comme les Allemands qui sont prêts à mettre un paquet de 200 milliards sur la table pour soutenir leur industrie, parce qu'ils ont un peu plus de marge de manœuvre budgétaire. Mais juste, si on prend un peu la perspective européenne, et notamment, on critique souvent les Allemands, etc. Mais aujourd'hui, si t'es par exemple, Scholz, quelle est ta situation ? C'est assez intéressant. Tu regardes tes principales sociétés. Et je vais te citer quelques chiffres. Volkswagen, Daimler, BMW. Chaque compagnie, donc dans l'industrie automobile, fait plus de 35% de son chiffre d'affaires en Chine. BASF, la grande industrie chimique allemande, fait plus de 15%. BASF et Siemens ont annoncé récemment qu'ils allaient investir massivement en Chine et réduire significativement leur présence et leurs investissements en Europe. Et donc aujourd'hui, ce que Scholz se dit, c'est « Ok, je vois déjà une partie de mon industrie partir en Chine ». Le risque aujourd'hui, avec le prix de l'énergie élevé en Europe, avec en plus les mécanismes de subvention mis en place par les États-Unis, pays où l'énergie est beaucoup moins chère qu'en Europe aujourd'hui, c'est de voir en fait un autre grand pan de mon industrie partir vers les États-Unis. Et donc les Allemands se disent, mais d'ailleurs comme les Français, ce qui a permis d'avoir d'ailleurs une déclaration commune, pourtant on connaît les tensions franco-allemandes, on en a beaucoup parlé tous les deux, il y a eu une déclaration commune la semaine dernière entre Bruno Le Maire et Robert Habeck, le ministre de l'économie et de l'énergie allemande, parce que là, les Allemands et les Français sont d'accord pour dire, ça fait des années qu'on essaie de réindustrialiser l'Europe, réindustrialiser nos pays, avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Mais là, tous ces efforts de réindustrialisation, en fait, risquent d'être réduits à néant par le fait que, bah, on est moins compétitif aujourd'hui que l'Asie ou que les États-Unis.
Deux petits points par rapport à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que ce que tu viens de dire illustre le fait que la question de l'assainissement des finances publiques, ce n'est pas une question théorique, ce n'est pas une question idéologique, d'ordo-libéraux un peu illuminés. En fait, c'est une question de souveraineté. Et donc, lorsqu'on entend des souverainistes soi-disant passionnés par l'indépendance de leur pays avoir des raisonnements totalement délirants en ce qui concerne la finance publique, on voit bien l'inanité de leur discours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu sais que parfois j'ai envoyé dans nos différentes conversations quelques petites piques sur l'Allemagne. Là, en l'occurrence, je trouve que nous sommes dans une situation assez délirante où une partie des acteurs européens reproche à l'Allemagne sa bonne gestion financière depuis de nombreuses années, qui donne aujourd'hui à l'Allemagne les marges de manœuvre pour pouvoir agir justement dans ce contexte inflationniste et dans ce contexte de crise énergétique. C'est un peu comme si dans une classe, tu avais les mauvais élèves qui se plaignaient auprès du professeur du fait que celui qui travaillait beaucoup avait des bonnes notes. Cela souligne les difficultés aujourd'hui intra-européennes.
Tout à fait. Et puis, il y a quand même un point, moi j'ai mentionné là des grandes sociétés qui réfléchissent à relocaliser leur activité. Mais le vrai problème, c'est qu'en fait, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que le cœur du réacteur industriel européen, ce n'est pas les grandes sociétés, c'est les PME. Et elles, en fait, elles ne vont pas relocaliser, elles vont juste disparaître. Et en fait, le vrai risque qu'on a en France, qu'on a en Italie, qu'on a dans un grand nombre de pays européens, c'est qu'aujourd'hui, on a tout un tissu de PME industrielles qui sont assez peu connues, mais qui, en fait, sont celles qui créent l'emploi sur le terrain, qui font vivre les bassins locaux, les petites villes, etc., et qui, elles, risquent d'être ravagées, souffrent déjà du fait de la hausse du prix de l'énergie. On parle quand même de factures énergétiques qui ont été multipliées au moins par 4, 5, même dans un pays comme la France. Donc je ne parle même pas des factures énergétiques dans un certain nombre d'autres pays européens qui sont encore plus exposés à l'inflation. Mais ça, c'est un vrai problème. Et alors, tu le dis, effectivement, des différentes approches européennes, avec un pays comme la France, et ça va être justement, à mon avis, un des grands sujets de discussion entre Biden et Macron, qui essaie de porter une approche beaucoup plus ferme par rapport aux États-Unis, en disant en fait, il faut ce qu'on appelle un Buy European Act, c'est-à-dire grosso modo, il faut faire l'équivalent, il faut côté européen dire, on achète en priorité de l'européen, quitte à, nous aussi violer certaines règles du commerce international, mais à un moment donné, il faut une approche quasiment de réalpolitik sur ces sujets-là. Et puis des pays historiquement beaucoup plus libre-échangistes, la Suède, les Pays-Bas, etc., qui essaient toujours un petit peu de naviguer et dire, peut-être que finalement, on peut essayer de trouver un petit accord avec les États-Unis et puis continuer de naviguer, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet entre Européens. Paris semble avoir mis Berlin de son côté, même si on peut nuancer ça. Mais ça va être un peu le grand enjeu des discussions dans les prochaines semaines, prochains mois côté européen, sachant que ce qu'on peut quand même reprocher à l'Europe là-dessus, alors l'Europe a beaucoup fait depuis le début de la guerre en Ukraine, mais c'est que ce problème quand même de hausse de prix de l'énergie, on le voit quand même émerger depuis maintenant plusieurs mois. On est en novembre, quasiment fin novembre maintenant. Depuis mars, il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur ce plan-là. Et c'est vrai que pas mal d'industriels disent que l'Europe a été très lente sur ce point. Et tu me connais, je suis extrêmement pro-européen. Mais là-dessus, je dois dire que je ne suis pas en désaccord avec eux.
Et c'est aussi lié à des choix parfois désastreux nationaux, hein, notamment en France, il n'y a pas que l'Europe. L'autre point, on va suivre bien sûr attentivement cette rencontre Biden-Macron, l'autre point qui sera intéressant sous un angle plus géopolitique que purement économique, c'est tout ce qui est lié bien sûr au contexte d'affrontement en Europe de l'Est, mais également on voit bien la crise qui monte petit à petit entre les États-Unis et la Chine. Et de ce point de vue-là, l'administration Biden a quand même porté une pierre à son édifice juridique avec sa National Security Strategy. En quoi, pour nous, Européens, cela peut être intéressant et même, d'une certaine manière, inspirant?
D'abord, ces documents sont vus souvent comme assez arides, assez peu d'ailleurs commentés par les médias qui s'y intéressent en général assez peu, et on a l'impression que c'est un peu des documents réservés à quelques spécialistes, think tankers, etc. Or, c'est des documents souvent très intéressants parce que il donne une vision quand même assez claire de ce qu'est la stratégie d'un pays. Il n'y a pas simplement les États-Unis qui le font. La plupart des pays ont une stratégie de sécurité nationale, un livre blanc, parfois, sur la défense ou sur la politique étrangère. Les Britanniques, notamment sous Boris Johnson, alors on peut dire, tiens, Boris Johnson, c'était une diplomatie erratique, mais avait publié un document stratégique absolument remarquable. D'ailleurs, il avait été écrit par un historien, est-ce le hasard, John Bew, grand spécialiste de réalpolitique. Et ce document donc américain dont tu parlais a été publié le 12 octobre. Et en fait, ce qui est assez intéressant quand tu le lis, c'est que tu t'aperçois que en fait, la stratégie de l'administration Biden est beaucoup moins caricaturale qu'on la décrit parfois, beaucoup plus nuancée. Et notamment par rapport à la Chine, où on n'est pas dans une logique de confrontation absolue, on est dans une logique à la fois de rivalité, sans aucune naïveté, à la fois sur le terrain des valeurs, sur le terrain géopolitique, mais aussi la reconnaissance qu'il y a un certain nombre de défis, changement climatique, pandémie, etc., sur lesquels il faut une coopération au niveau global, et donc essayer d'articuler, notamment à travers un jeu d'alliance avec les Européens, mais aussi dans l'Asie, avec des forums comme le Indo-Pacific Economic Framework ou le Quad, etc., des alliances qui permettent de contenir la Chine. Et puis également, ce qui, moi, m'a beaucoup frappé dans ce document stratégique, c'est le lien extrêmement fort entre diplomatie commerciale et géopolitique, on vient d'en parler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est impossible de parler de grands enjeux géopolitiques, de grandes rivalités de puissance sans prendre en compte cette diplomatie commerciale. Et c'est probablement une des grandes évolutions de la diplomatie au cours des 40-50 dernières années, parce que cette dimension géoéconomique, elle n'était pas aussi présente, par exemple, chez un Kissinger, le plus grand diplomate de 100 ans, mais aujourd'hui, elle est absolument essentielle. Et puis, l'autre point qui est fondamental, et tu le mentionnais tout à l'heure, c'est la question technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la rivalité avec les États-Unis, la vraie question, c'est, au-delà de Taïwan, etc., c'est comment, en fait, sur, par exemple, les semi-conducteurs, tu ne te retrouves pas en situation de dépendance, comment tu gardes une avance technologique. Et tu as notamment toute une série, alors ça, c'est assez technique, mais sur ce qu'on appelle export controls, donc les restrictions aux exportations de certains matériaux, de certains composants, qui aujourd'hui sont des pans essentiels de la diplomatie et des stratégies de sécurité nationale. Et là-dessus, les Américains ont une vision aujourd'hui qui est très sophistiquée. Et juste en deux mots, il y a une approche qui a fondamentalement changé avec ce document, c'est qu'avant, les Américains considéraient qu'en général, ils se fixaient pour objectif de garder deux générations d'avance sur les innovations. Aujourd'hui, en fait, ils s'aperçoivent que cette stratégie leur a pas permis de garder une avance technologique assez forte, notamment par rapport à la Chine. Et donc, ils sont aujourd'hui, en fait, dans une stratégie de maximisation de la différence en termes d'innovation. Et ça, c'est un virage sur lequel on reviendra peut-être dans des futurs épisodes, mais qui est extrêmement intéressant, avec des implications extrêmement importantes.
Et oui, et c'est là où tu soulignes le fait qu'aujourd'hui, géopolitique et économie sont plus liés que jamais. Et c'est ça aussi qui doit nous obliger à sortir de certains schémas théoriques qui ont longtemps été extrêmement valables et très intéressants, mais qui aujourd'hui sont un peu impertinents. Bon, on peut croire beaucoup dans David Ricardo, mais entre le vin portugais et les draps, ça a moins d'importance géopolitique qu'aujourd'hui le commerce des datas qui ont une véritable influence sur la sécurité nationale des pays. On en reparlera. Là, c'est l'heure de nos coups de cœur, Jérémy. Quel est le tien cette semaine?
Alors Romain, depuis quelques semaines, beaucoup a été dit, écrit sur le Qatar. Je t'avouerai que je ne suis pas toujours extrêmement admiratif des analyses qui sont produites par les uns et les autres, par les déclarations de nos responsables politiques. Par décence, je ne mentionnerai pas certains responsables gouvernementaux qui s'expriment sur le Qatar. Mais je dirais juste qu'il y a un très beau documentaire et passionnant que je conseille vivement, qui est intitulé « Qatar, une dynastie à la conquête du monde », qui est réalisé par Sylvain Lepetit, qui en plus a pour mérite d'être originaire du Puy-de-Dôme, et Miyuki Droz Aramaki. Et ces deux journalistes ont en fait réalisé un documentaire qui est passionnant parce qu'il revient en fait sur les différentes facettes du Qatar. C'est-à-dire qu'il n'est pas manichéen, il ne donne pas une vision binaire, il n'est pas caricatural. Les différents angles sont abordés, aussi bien la question des travailleurs migrants, mais aussi le rapport du Qatar aux frères musulmans, un sujet qui, étonnamment, est un petit peu moins présent dans le débat, probablement parce qu'il est un petit peu plus complexe et ne permet pas nécessairement une grille de lecture complètement manichéenne, mais aussi la manière dont ce petit pays a évolué à une vitesse incroyablement rapide depuis son indépendance en 1971, avec notamment clairement un côté très visionnaire de la famille Al-Thani en termes de diplomatie sportive, mais aussi diplomatie culturelle. Une société qui n'est pas monolithique, et ça on a tendance à l'oublier, c'est-à-dire que le Qatar, c'est une société où il y a effectivement une volonté réformatrice, c'est une société qui a évolué très vite, mais aussi des pans beaucoup plus conservateurs, qu'il est nécessaire de prendre en compte quand tu es la famille régnante au Qatar. Un pays qui est aussi pris entre deux puissances, l'Iran, l'Arabie Saoudite, juste sur le plan géographique, c'est une évidence, mais c'est important de le rappeler parce que ça a beaucoup expliqué le positionnement de ce pays, notamment sur le plan médiatique durant les printemps arabes, qui ont été clairement un échec diplomatique pour le Qatar, mais ensuite, au moment du blocus qui lui a été imposé conjointement par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, où là, en revanche, ça a été un succès majeur. Bref, c'est un documentaire qui est passionnant parce que c'est un documentaire qui est nuancé, où on fait appel non pas à des activistes ou à des militants pour parler du Qatar, mais en fait à des experts, des historiens, des gens qui ont consacré de nombreuses années à étudier ce pays, mais également des ONG, par exemple Amnesty International est interrogé et apporte une perspective très intéressante. Et donc voilà, et c'est, je trouve, sur tout ce qui a été dit, écrit sur le Qatar, probablement une des choses les plus intelligentes que j'ai vues. Et donc c'est un documentaire que je recommande vivement. Mon cher Romain, je crois toi que tu voulais nous parler de quelque chose qui... finalement, et aussi un peu l'intersection du politique, du géopolitique et des médias.
Oui, et puis surtout d'une autre dynastie, hein, d'une autre monarchie qui, je dois te l'avouer, mais beaucoup plus sympathique, la monarchie britannique, à travers la saison 5 de la série The Crown, à voir sur Netflix, qui, comme toutes les saisons de cette série consacrée au règne d'Elisabeth II, est très intéressante. Alors, je dois te dire que j'étais un peu sceptique au début, car je trouve le casting un peu moins parfait que dans les saisons précédentes, pour ce qui concerne tout du moins la ressemblance physique des acteurs avec les personnages réels. Pour ce qui concerne l'enjeu d'acteur, en revanche, c'est impeccable. Et puis, cette cinquième saison traite des années 90, qui pour la monarchie britannique sont à la fois moins sympathiques, objectivement, et moins flamboyantes. Tu parlais de géopolitique, là... Dans cette saison, c'est un peu fini, les grands enjeux politiques, comme la crise de Suez, comme la guerre des Malouines. C'est également fini pour ce qui concerne des grands personnages politiques flamboyants, comme Churchill, Hayden ou Thatcher. Là, on s'engonce un peu dans la médiocrité des déboires intimes de Charles, de Diana et compagnie, et puis du jeu politique assez superficiel des uns et des autres, et à commencer par celui du prince de Galles de l'époque. Et donc, tout cela donne l'impression d'un affaissement, parce que la saison et l'époque qu'elle décrit semblent moins, on va dire, inspirantes pour des passionnés d'histoire ou de politique. Mais cela ne rend pas cette saison moins intéressante, bien au contraire. Tout d'abord parce que, comme toujours avec The Crown, c'est remarquablement bien écrit et interprété. Tu as Jonathan Pryce qui avait fait une fois, une année, un méchant dans un James Bond qui cette fois-ci joue Philippe, qui est excellent et qui donne au personnage vraiment une grande épaisseur. Ensuite, parce qu'on apprend tout de même des choses, et c'est l'une des forces de cette série, dans toutes ses saisons, de très bien mettre en valeur des personnages a priori secondaire, mais qui raconte beaucoup de l'évolution de notre société. Et dans cette saison de The Crown, il y a notamment un passionnant épisode qui est consacré à Mohamed Al-Fayed. Et puis, ça raconte beaucoup de l'évolution, et je trouve que c'est le point peut-être le plus intéressant de cette saison, cela raconte beaucoup de l'évolution du rapport du pouvoir aux médias. Alors là, nous ne sommes pas encore dans l'ère numérique, mais Charles, comme Diana, à l'inverse de la tradition monarchique jusqu'alors, décident chacun de leur côté, puis chacun à leur manière, de jouer pleinement le jeu des médias, de la télévision, des confidences intimes. Cela préfigure presque, on pourrait dire, la future télé-réalité qui apparaîtra 10 ans plus tard. Donc Charles, comme Diana, essaye de s'en servir pour passer des messages, pour faire plus moderne. Mais bon, cela finira par les rattraper, et même totalement tragiquement pour ce qui concerne Diana. Alors, je n'en dis pas plus, parce que je sais que tu vas très prochainement te dévorer cette série, et puis pour tous nos auditeurs, pour ne pas trop divulgâcher, même si en l'occurrence, je crois que tout le monde connaît déjà la fin, mais The Crown reste une série qui raconte son époque et son temps, puis là, les années 90 que l'on a très bien connues, avec une acuité impressionnante, et c'est toujours remarquable.
Merci beaucoup Romain, et je vais effectivement m'y plonger très bientôt. C'est fini pour cette semaine. Merci beaucoup et nous serons très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À la semaine prochaine, Jérémy.